Être productive et efficace pour éviter de gaspiller ton énergie. Ça t'intéresse? Alors ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit Sonia et Sonia va nous partager des astuces pour être le plus efficace possible tout en préservant son énergie. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et surtout pour booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner dès maintenant sur Créative Épanouie et surtout à télécharger ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Sonia.
Bonjour Christelle.
Alors, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi lors de ce podcast. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as expliqué un petit peu ce que tu faisais dans ton quotidien et surtout comment tu as réussi à mettre en place des techniques pour être plus productive et plus efficace, vraiment tout en préservant ton énergie. Alors déjà, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter.
Oui, ben moi je suis Sonia, j'ai 52 ans, ça fait 12 ans que je suis coach PNL, donc en programmation neuro-linguistique. J'apprends à mes clients à mieux utiliser, à piloter leurs pensées, leurs émotions et leurs actions pour réaliser ce qu'ils ont envie. Donc en entreprise, eh ben souvent c'est pour avoir de meilleures relations, être dans une bonne performance. Et du coup, je suis également formatrice en entreprise sur ces thématiques-là, notamment la gestion du temps et l'aisance, retrouver de l'aisance dans sa gestion du temps et sa gestion professionnel de ces projets.
Très bien. Et alors du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu t'as décidé de devenir coach PNL?
Alors, il fut un temps où j'étais une yes girl à qui tout réussissait. J'étais cadre commerciale à l'international, j'habitais à Paris. Alors, j'enchaînais les voyages, les sorties, les défis, les succès. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée fauchée en plein vol, sans crier gare, voilà, mais fauchée en plein vol, au sol, quoi, littéralement, à la fois au sens figuré et au sens propre. Et en fait, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. J'étais absente quelques temps, tu vois, dans mon entreprise. J'ai repris d'autres défis, j'ai changé de boîte, j'ai continué la vie comme ça, mais tout me semblait hyper lourd, hyper pesant. Tout était difficile, tu vois, à faire. Vraiment, je ramais. Et en continuant mes défis, j'ai déménagé, j'ai suivi, je me suis mise en couple et je suis devenue maman. Et du coup, plein de nouveaux défis sont arrivés dans ma vie. J'avais plein de balles avec lesquelles jongler et je m'en sortais pas. Et tout à coup, j'ai entendu parler d'une formation qui apprenait la modélisation de l'excellence et de la performance. Donc, je découvre ce mot PNL. Et je me dis que là, mais je suis au bout de ma vie, je n'arrive plus avec toutes les différentes casquettes et j'arrivais même pas à trouver du travail parce que j'étais trop submergée par plein de choses, tu vois. Et du coup, je me mets sur le chemin de la PNL. Je tombe en amour de cette pratique qui était tellement, pour moi, à la fois innovante et tellement efficace que je décide, je dis, mais est-ce que ça existe un métier? Donc, je décide d'en faire mon métier. Donc, ça, c'était en 2011. On me dit, oui, mais il va falloir que tu deviennes praticien. Donc, je dois faire une formation. Ça, c'était les bases de la PNL. Je fais une formation, je deviens praticien. Je dis, mais est-ce que je peux maintenant ouvrir un cabinet? Ça serait bien que tu sois coach. Je refais une année de formation de coaching. Et du coup, en 2013, j'ouvre mon cabinet, dans un endroit avec des psychologues pour enfants et je commence à recevoir des clients. Et suite à ça, je fais des rencontres et je commence à intervenir en entreprise et à devenir formatrice sur différentes thématiques, que ce soit du leadership. Voilà comment je suis arrivée à la fois à la PNL et aussi, j'ai envie de te rajouter ça, au côté énergétique des choses, parce que je me suis rendu compte que oui, c'est super de piloter ton cerveau, tes émotions, tes actions, mais ça n'empêche que tu peux te retrouver le matin à rester au fond de ton lit, à avoir du mal à sortir ton canapé, malgré toute l'ambition que tu as et tous les projets super que tu as envie de faire, il y a des fois des choses plus fortes que toi. Donc, j'ai aussi suivi une formation pour apprendre aussi comment fonctionnait l'énergie, pouvoir aussi amener ça dans mes accompagnements.
Parfait, bah écoute, c'est génial, c'est en tout cas c'est hyper inspirant parce qu'effectivement donc la PNL, moi je suis fan aussi, j'ai fait quelques formations là-dedans et d'allier ça avec le côté énergétique, je trouve que c'est vraiment hyper complémentaire parce que tu peux, comme tu le dis très bien, hein, modifier les pensées, les actions, les émotions, etc. Mais derrière, c'est aussi important de préserver son énergie parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de risques de burn-out, hein. Moi j'en ai fait un. A priori, du coup, toi aussi, en tout cas, il y avait pas
Oui.
mal de charges mentales
Ouais.
importantes et qui pèsent. Donc, effectivement, d'allier les deux, c'est hyper intéressant. Parfait. Quel message t'aimerais pouvoir délivrer
En fait, moi, ce que j'invite les personnes à faire, c'est, tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a refusé à un moment de reconnaître nos limites. Alors aujourd'hui, non seulement j'invite les personnes à les reconnaître, ces limites, mais également à en poser aux autres. Et du coup, j'en suis arrivée à que non devienne mon nouveau oui, en fait. À savoir dire non à tout ce qui n'est pas important, ce qui nous détourne de nos objectifs pour pouvoir dire oui à l'essentiel. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à tes auditrices, à tes créatives épanouies, tu vois. Leur apprendre quelques astuces pour passer de ça, tu vois, ce qui est important à nous, enfin, ce qui ne l'était pas, et maintenant focaliser sur l'essentiel, sans gaspiller son énergie, sans s'épuiser.
Ok, génial, j'adore ta phrase. Non est ton nouveau oui.
Ouais, c'est ça, j'ai eu du mal au début, tu vois, à me dire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Je ne savais absolument pas poser des limites à qui que ce soit, à moi-même, aux autres. C'était toujours open bar, tu sais. J'étais connue pour tout est possible avec moi. Ouais, mais sauf que non, en fait, Sonia, il y a des fois, il y a des trucs. Et il n'y aurait pas eu ce gros stop à un moment, ce panneau stop. Peut-être j'aurais continué comme ça, à pas m'interroger et pas aller à l'intérieur de moi comprendre ce que je veux vraiment. Et maintenant, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux personnes que j'accompagne, tu vois. D'abord se connecter à soi, comprendre ce qu'on veut, pour ensuite savoir dire des vrais oui aux choses et puis des non à ce qu'on veut pas, quoi. Et vraiment être leader de sa vie.
Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais des conseils pour vraiment arriver à dire non à quelque chose, finalement, c'est dire oui à autre chose, pour du coup, tout en restant en fait productive, efficace et surtout en préservant son énergie?
Oui, bah moi ce que j'avais envie de te partager à tes auditrices pendant ce podcast, c'était vraiment à dire non. J'ai identifié, j'ai fait un petit tour, un sondage auprès de mes clients, dire non à quoi? D'abord aux voleurs d'énergie et de temps pour pouvoir dire oui à des nouvelles habitudes plus productives et plus efficaces. Donc c'est ça que je te propose moi. Et j'ai identifié avec eux plusieurs voleurs de temps qui sont les plus récurrents et les plus impactants pour eux. Et puis bah je propose justement pour tes auditrices à chaque fois quelques petites astuces.
Très bien, alors quel serait le premier voleur de temps?
Alors le premier qu'on m'a rapporté, c'est vraiment la procrastination. Puis ça tombe bien parce que moi je suis reine de la flemme, reine de la procrastination. Donc il s'avère que il m'en a fallu des astuces et des stratégies pour justement passer de bah je dis non à la procrastination et je dis du coup oui à quoi? À l'action, mais à une action, tu vois, réfléchis toujours la même chose sans s'épuiser. Tu veux que je te donne quelques astuces?
Allez, avec plaisir.
Ok. Déjà, première chose, souvent, tout nous paraît trop gros. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'en fait, notre projet ou ce qu'on a à faire là, ça nous paraît énorme. Ça l'est peut-être pas, mais en tout cas, c'est ça, c'est cette impression de côté gros. On va utiliser en gestion du temps la métaphore de la baleine. Si tu devais manger une baleine, bah, qu'est-ce que tu ferais? Tu la couperais en petits morceaux. Bah, ta baleine, c'est ta tâche, c'est ton projet énorme. Du coup, tu le découpes en plein de petits sous-tâches, plein de petits sous-objectifs. Déjà, fois, c'est plus digeste, tu vois, première chose. Ensuite, je vais faire beaucoup un bestiaire animal avec la procrastination, mais il y a une règle qui est très connue, ça s'appelle manger cette grenouille, eat that frog en anglais. Et en fait, c'est qu'on t'invite à commencer toujours par la tâche qui te semble la plus difficile en premier le matin. Ça vient de Laborit, qui est un chercheur qui était l'inventeur des neuroleptiques. Il avait observé un programme biologique de survie, comme quoi on a une inclination naturelle à fuir le stress et à rechercher en priorité le plaisir. Donc forcément, c'est un peu la loi du moindre effort, on va toujours vouloir faire d'abord des choses un peu plus triviales et puis repousser le truc, tu vois, on fuit le stress, donc on n'y va pas dedans. Donc en fait, moi, ce que j'invite les gens, c'est à commencer bah ouais, dès la première heure à ce truc, cette grosse grenouille un peu dégueu, manger la plus dégueu en premier pour que toutes celles derrière, tu vois, elles te paraissent beaucoup plus digestes et moins désagréables à manger. Mais j'ai remarqué ça par rapport à moi, c'est que ben, en fait, manger une grenouille dégueu, ça ne me plaît pas. Alors, ce que je fais moi, et que j'invite du coup les auditrices à faire également, c'est que j'ai trouvé une astuce qui marche super. Et justement, hier, un client me disait, tu sais, Sonia, le truc qui a plus fonctionné pour moi, c'est de donc commencer déjà par 5 minutes. Ok, tu as un truc qui te fait vraiment pas envie, tu n'as juste pas envie de t'y mettre, et tu te dis déjà, bon, allez, je passe 5 minutes dessus. Tu vois ce que ça donne. Soit tu auras peut-être envie de continuer parce que finalement, ces 5 minutes, elles n'étaient pas désagréables, du coup, tu es dans l'élan. Soit bah, tu t'arrêtes et tu dis, bon, bah, je referai 5 minutes. Et bah, tu sais quoi, mis bout à bout, c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est finalement pas si terrible que ça. Et le fait de l'avoir timé comme ça dans le temps, bah, ça te permet vraiment d'avancer. Et puis j'en ai un autre qui est plus connu, mais que j'utilise moi vraiment à chaque fois, parce que moi, je suis assez, alors je vais te dire un gros mot, bordélique. Et du coup, j'utilise vraiment tout ce qui prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement sur le champ. Et du coup, ça me permet, si j'ai un crayon qui traîne, et bah, je le mets maintenant tu vois, dans ma boîte à crayons, la lettre qui n'est pas ouverte, je l'ouvre, tout ce qui prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Et je trouve que ça permet vraiment de passer ce cap. En fait, tu sais, la première étape, c'est de reconnaître à quoi on procrastine. Hein. Déjà, si tu te dis, OK, je suis flemmarde, OK, je procrastine, déjà, ça va te libérer pas mal de choses. Et après, bah, c'est que des petites stratégies à mettre en place.
Ok, parfait. Donc là déjà, tu as donné, juste pour un voleur de temps, il y a déjà trois astuces. Donc cette idée d'avancer, de découper en petites étapes,
Oui.
commencer par la grenouille, avaler la grenouille, j'aime beaucoup la métaphore. Et puis l'histoire des 2 minutes, c'est effectivement moi quelque chose que je fais régulièrement. Les tâches qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, autant les faire tout de suite, comme ça on se libère en fait de la charge mentale. Parfait. Est-ce que tu as identifié du coup d'autres voleurs de temps?
Bah, tu viens de le dire, tiens, c'est rigolo, tu savais pas, mais c'était la charge mentale justement qu'on m'a cité hier, une de mes clientes. J'ai fait un petit message, j'ai fait un petit post réseau pour dire, bah voilà, quels sont vos plus gros. Je fais un podcast demain avec la sublime Christelle. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les voleurs de temps qui sont les plus pesants pour vous? Et la charge mentale est donc arrivée pour certaines personnes. Et là, du coup, ce que j'ai envie de proposer, c'est, puisque je vous dis, bah, le non et le nouveau oui, bah, c'est de dire non en fait à l'urgence et dire oui à l'importance. Parce que tu vas te rendre compte souvent que tu vas passer beaucoup de temps à faire des trucs en mode pompier. Alors que finalement, c'est pas ce qui te ramène le plus. C'est bien s'appuyer sur la loi de Pareto pour ça, tu vois, tu te concentres sur l'essentiel parce que 20% de tes tâches va produire 80% de tes résultats. Donc, Choisis bien, toi, les 20% qui sont essentiels à faire avancer ton projet et ne te disperse pas, tu vois, sur des choses qui sont, oui, triviales, superficielles. Genre, je te donne un exemple, on va souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va peaufiner un petit canevas, je sais pas quoi, pendant des heures, alors qu'on devrait être en train de réseauter quelque part, aller rencontrer du monde. Ça, c'est super important. Ou alors, la matrice d'Eisenhower, et je vais pas faire les quatre cadrans qui sont connus, mais j'invite tes auditrices à aller voir ça. Je vais juste te parler de celle qui est quand c'est important et non urgent. Donc, en fait, normalement, on devrait focaliser sur ce cadran, donc qui fait justement référence à l'urgence, le degré d'urgence et le degré d'importance des tâches qu'on a à faire, et focaliser sur ce cadran, donc de important, non urgent, c'est là où on devrait mettre vraiment notre attention. Et pourtant, dedans, quand je vais te dire ce qu'il y a dedans, eh ben, on fait tout on freine des cas de fer pour y aller, parce que c'est dans cette case, ça veut dire je planifie, ça veut dire j'anticipe, je prépare. Alors moi, je vous donne un petit chiffre hein, que j'ai vu dans une étude. 1 heure de planification, ça fait gagner 10 heures d'exécution, les filles. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que qui fait ça? Vous connaissez le truc anglais? Sit, think and plan. Normalement, on est censé se poser, faire des pauses organisationnelles, mais c'est tellement contre-intuitif qu'on se dit « Non, non, je vais aller dans l'action, je vais faire ci, je vais faire ça. » Alors que on se pose, on regarde ce qu'on a à faire, on prend ce petit cadran d'Eisenhower, on met les tâches dedans. Oh, on va se rendre compte que ah, bah, ça, c'est ni important ni urgent. Je dégage. Les choses qui sont dans une certaine sorte d'urgence, mais moins importantes, je peux peut-être les déléguer. Hein, pourquoi? Je peux peut-être aussi apprendre à dire non. Donc, en fait, on va pouvoir en fait plus driver toute cette masse par rapport à la charge mentale dont on parle qui arrive et déjà l'organiser dans un cadran. Ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Puis, du coup, tu vois, d'être aux rênes plutôt que de subir tout ça et puis de crouler dessous. Tout à coup, tu reprends toi le pouvoir. Et le fait d'être noté aussi, ça va t'aider, quoi. Et donc, du coup, tu vas savoir que, bah ouais, là, je devrais être en train de construire mes relations, je devrais être en train de nanana, alors que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de pinailler sur quelque chose qui va finalement ne pas impacter mon activité, mais que tu sois salarié ou entrepreneur, hein, ça marche dans les deux cas. Donc, voilà. Dire non à l'urgence et oui à l'importance.
Ok, bah merci, ton chiffre, il est impactant et c'est incroyable de se dire qu'en planifiant pendant 1 heure, on peut gagner 10 heures de son temps et là, c'est juste énorme en se disant, mais
Mais
en fait,
oui.
finalement, ça donne carrément envie bah, d'utiliser le tableau et de planifier en se disant, bah, si derrière, on gagne 10 heures, par exemple, dans sa semaine, ça vaut le coup effectivement de perdre, entre guillemets, 1 heure à planifier, à faire le tableau, voir ce qui est important et ce qui l'est moins et pour derrière
En fait,
gagner.
tu gagnes 9 heures, quoi.
C'est ça, mais c'est incroyable.
Tu prends 1 heure pour en gagner 9 derrière.
Ok, parfait. Est-ce que tu as identifié d'autres voleurs de temps?
Oui, alors ça, c'est une autre personne qui m'a répondu sur les réseaux. Elle m'a dit qu'elle avait un perfectionnisme excessif. Ah oui, bah tiens, on connaît tout ça, ça revient à ce que je te disais, hein, peaufiner le petit canevas, le petit carrousel bien tout mignon sur nos réseaux. Franchement, on n'est pas sûr que c'est là où ça va nous permettre d'être la plus performante ou efficace sur les retombées qu'on souhaite avoir. Donc, ouais, j'invite à dire non au perfectionnisme excessif et puis oui, bah, au lâcher prise, hein, ce fameux lâcher prise. Pour ça, j'ai trois choses pour vous. C'est un petit mantra que j'avais déjà posté là sur LinkedIn il y a quelques semaines, qui est bah, répéter quotidiennement pendant 21 jours. Ça, c'est la prescription du docteur Sonia. Bah, mieux vaut fait que parfait. Parce que les gars, des fois, vous êtes en train de peaufiner des choses et du coup, bah, vous l'avez toujours pas posté ce truc-là. Vous avez toujours pas fait votre com. Vous êtes en train de prendre du retard sur vos délais, sur vos échéances. Alors que bon, c'est fait, c'est pas si mal. Et franchement, personne va venir vous dire ah bah c'est dommage que t'avais pas mis du bleu ici. Enfin bon, je reviens un peu toujours sur cette idée qu'on prend du temps sur des visuels, mais il y a plein de choses où on perd du temps. Et justement, ça, j'ai une astuce pour vous que j'avais apprise quand j'ai préparé ma formation de gestion du temps que je trouve géniale. C'est de avant de commencer une tâche, écoutez bien, estimer le pourcentage de perfection nécessaire à votre travail. Ça veut dire que c'est vous qui allez décider. Je vous donne un exemple. C'est clair que si vous avez un contrat à faire avec un client, mais là, le pourcentage, c'est 99,99. 100%, vous n'allez peut-être pas pouvoir être au top de top de votre contrat, il y aura peut-être un petit truc, mais c'est vous devez viser ça. En revanche, vous êtes en train de faire un draft ou je sais pas, vous êtes en train d'écrire un truc, mais 80%, c'est largement suffisant de perfectionnisme. Donc, c'est aussi à vous de driver. Et j'ai trouvé ça intéressant de nouveau de reprendre les rênes et de se dire, bon alors, quel pourcentage de perfection je veux sur ce truc-là? Ok, bon allez, 60, ça ira bien, c'est largement suffisant. Et du coup, bah tu gagnes de nouveau du temps, de l'efficacité, t'es plus productif puisque tu ne chipotes pas, tu ne pinailles pas, enfin tous les mots que vous pouvez mettre à cet endroit. Et puis la dernière chose très importante, il y a beaucoup de lois de gestion du temps que je vous invite à aller redécouvrir et qui peuvent être le sujet d'un autre podcast avec toi, Christelle. C'est vraiment utiliser la loi de Parkinson, qui est aussi pour les gens, c'est le T dans les objectifs SMART. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous fixer des délais. C'est une loi qui vient de la physique. On disait que tout gaz tend à se dilater pour occuper tout l'espace disponible. Et bien en fait, le travail, c'est pareil. Tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps disponible. Donc ça veut dire que si tu as un truc, que tu te dis, bon, ok, je me donne 24 heures pour terminer cette tâche-là, bah, c'est le temps que tu vas prendre, que ça va te prendre. Mais tu peux dire la même chose, oh bah je vais prendre une semaine pour faire ce truc-là, oh bah c'est bizarre, c'est aussi le temps que ça va te prendre. Donc, hyper important de fixer le bon pour toi délai, la bonne échéance, parce qu'il faut que ça soit suffisamment tendu pour que tu sois motivé à y aller, mais pas trop pour pas que tu te mettes à t'auto-saboter. Donc à trouver toi le curseur, peut-être une journée finalement c'est pas très réaliste, donc bah dis-toi 2 jours, mais par contre la semaine qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à tergiverser, tu vas procrastiner, tu vois c'était trop mou, la corde n'était pas suffisamment tendue. Donc voilà, utilisez aussi ça, vous fixez des délais réalistes mais ambitieux.
Ok, parfait. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur son driver, Madame Perfectionniste.
Oui, très bien.
Moi, c'est ce qui était assez important chez moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené au burn-out notamment. Et comme tu dis, oui, le fait de planifier, finalement, on en revient à la planification, de se planifier un temps qui soit raisonnable dans son activité, parce que plus on met un temps large, et plus finalement, comme tu dis, on va occuper cet espace, alors que finalement, ce ne sera pas forcément important, parce qu'après, on va pinailler sur des petites choses, surtout quand on a une tendance à être assez perfectionniste, alors que bah, voilà, quand c'est cadré en disant bah, je fais cette tâche en 1 heure, quoi qu'il se passe, en 1 heure, bah, j'arrête. Bah, ok, en 1 heure, la tâche, elle sera terminée. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que tu souhaites partager une dernière...
Bah, j'ai envie de peut-être de terminer sur ça. C'est finalement là, c'est des bouffeurs de temps, des voleurs de temps qui m'ont été cités, mais on se rend compte qu'on parle de dire non à quelque chose et de dire oui à autre chose. Mais j'ai remarqué que finalement, quand je suis en entreprise, en formation, qu'est-ce qu'ils me disent les salariés? Ils me disent bah ouais, mais en fait, moi, j'ose pas dire non. Donc peut-être apprendre. Bon, je dirais que moi, mon dernier et quatrième voleur de temps, ce serait bah, de pas savoir dire non à plein de choses, tu vois. Je trouve, par exemple, pas savoir dire non aux interruptions. Ça, c'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai des managers, je suis obligée de leur expliquer qu'à un moment, ils peuvent fermer la porte. Eux, ils voudraient être en open bar de nouveau, que tout le monde puisse rentrer chez eux quand ils ont besoin de poser une question. Bah non. Apprendre à dire non, c'est qu'il y a des fois, tu as des tâches, tu ne dois pas être interrompu pour les faire. Donc, tu fermes ta porte. En revanche, tu peux avoir proposé un horaire pour que les personnes aient une permanence et viennent te voir. Tu dis, bah, la porte est fermée, mais par contre, voilà, tous les jeudis ou je sais pas quoi, à telle heure, il y a un créneau d'1 heure qui est réservé aux gens. Parce que sinon, les gens, ils abusent tout de suite, tu vois, ils vont s'engouffrer. Eux, c'est urgent pour eux. Ils viennent te voir, tes managers, ils viennent te dire tout de suite, ah, mais il faut que tu m'aides pour ça. Non, non, ils vont pas se rendre compte que toi aussi, tu as des choses importantes à gérer et que si tu sais ouvrir et fermer ta porte. Donc ça, c'est une première chose pour les interruptions. Pardon. Ensuite, un truc qui est bien à faire, et pourtant on n'ose pas non plus le faire, c'est différer sa réponse. Tu peux tout à fait à qui que ce soit, hein. Ça peut même être une direction, un manager qui vient te demander un truc urgemment, c'était pour hier, ça on l'a tous connu, on l'a tous vécu en entreprise, hein. Bah, tu diffères ta réponse, tu dis, bah, écoute, là j'ai quelque chose à terminer, je reviens vers toi dans, et c'est toi qui décides, dans X minutes, dans X heures, X jours. Et puis bien sûr, tu vas le faire parce que tu veux être digne de confiance. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, si c'est justement un supérieur, tu peux te sentir mal peut-être de répondre comme ça. Mais par contre, tu vas prendre en différent, tu vas prendre le temps d'identifier vraiment les bons arguments. Et puis tu vas peut-être être en mesure d'évoquer une solution alternative si jamais bah, tu vois, tu veux dire non, ok, tu vas le dire. Mais tu dis, en revanche, ce que je vous propose, c'est. Par contre, si tu es pris là de court et que tu veux répondre tout de suite parce qu'il faut. Non. Donc prends la peine de différer, ça te permettra, et ça c'est aussi mon autre solution, c'est prendre le temps d'identifier à quoi on va dire des vrais oui et des vrais non. Parce que là, je te parle surtout du travail, mais des fois les sollicitations, elles peuvent être extérieures. Imagine, t'as ton frère qui arrive, qui dit ah, je dois absolument partir en voyage, je dois absolument que tu gardes mon chien, il n'y a que toi qui peux m'aider, non, 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 bah toi c'est ton frère, bah oui, forcément, oui, je vais garder le chien, tout à coup tu te rends compte que. Mais c'était le week-end où j'avais ça, ça, ça. Et du coup, en disant oui à mon frère, je me dis non à moi sur plein d'autres dossiers. Donc. Prenez le temps quand même d'identifier quand vous dites tout de suite, parce que en fait, faut cesser d'être juste gentil. Enfin, vous pouvez rester gentil, mais en vous mettant vous au centre aussi de l'équation, ça permet de dire non d'une façon vachement plus, je sais pas, douce, parce que vous savez tellement, en fait, vous êtes tellement sûr de vous. Ah bah non, vraiment, ça aurait été avec plaisir que je te l'aurais gardé, mais il s'avère que c'est le week-end ou nanana. La personne en face, elle peut pas mal le prendre, tu vois. Et puis la dernière chose que je dirais par rapport à ce voleur de temps-là, donc de pas savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Hein, c'est ça que je voulais dire, non. Dire non aux autres. Et donc dire oui à soi, c'est ça en fait, hein, sur cet élément-là. Bah, c'est aussi poser un cadre, un peu comme je vous l'ai expliqué avec la porte fermée. Et puis, on en a parlé tout au début de mon introduction. J'ai dit qu'à un moment, j'avais refusé de reconnaître mes limites. Bah, c'est aussi reconnaître ses limites et en poser. Donc mettre en place des règles, de ne pas déranger de telle heure à telle heure. Si vous êtes en open space, vous pouvez tout à fait, c'est ce que font certaines personnes, mettre un petit panneau rouge ou vert pour que les gens sachent bah, si là vous êtes dispo ou pas. Poser un casque sur vos oreilles permet de savoir que bah, non, là, on ne peut pas l'interrompre parce que les gens, ils s'en fichent. Hein. Si vous n'avez pas mis un gros signal, eux, c'est super important ce qu'ils ont à faire, ils arrivent. Et donc voilà, soyez très clair dans votre communication par rapport à ça, par rapport à ce cadre que vous posez. Et puis du coup, bah, en étant clair et ferme, vous verrez que ça passe super. Et puis alors, la peur de ne pas être aimé, vous allez voir au contraire, hein, vous allez être respecté. Ça, c'est encore mieux, quoi. Enfin voilà, moi, voilà, c'est mes conseils.
C'est ce que j'allais dire finalement, quelque part, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi et donc
C'est ça.
se respecter tout en posant ses limites. Et effectivement, alors moi du coup, c'est quelque chose que j'adopte depuis quelque temps. À partir du moment où on est clair avec ce qu'on veut, ce qui vibre en nous, quand on dit non, en fait, finalement, l'autre personne, on se rend compte qu'elle ne le prend pas mal, en fait. Parce que soit on propose une alternative, c'est ce que t'expliquais tout à l'heure dans l'exemple du manager, bah, là tout de suite, la porte elle est fermée, je suis pas disponible. Par contre, je serai disponible entre midi et deux. Donc finalement, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose à adopter, c'est se respecter soi, poser ses limites, et c'est finalement ne pas être la gentille tout le temps et d'en arriver jusqu'à un épuisement, ce qui arrive assez fréquemment. Donc, oui, finalement, c'est vraiment se respecter et poser ses limites.
Et c'est bien ce que tu as dit, de ne pas être gentil. Et là, j'ai envie de citer Olivia Sautreau, qui est une super business coach, qui dit sans être une garce. Arrêtez d'être la gentille sans être une garce. Ce que je te propose là, et toutes les propositions que j'ai faites à tes auditrices, tu deviens pas une garce, puisque tu te respectes toi, on sent bien, la limite est claire, posée, on n'a juste pas envie de rentrer dedans, t'as compris, t'as mis ta petite barrière et tout. Et pour autant, tu passes pas pour une garce.
Parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange. Juste avant de finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, j'aurais envie de plutôt citer mon LinkedIn avec Sonia Quétan, puisque c'est là où je touche plutôt le public professionnel. J'ai d'autres réseaux, mais c'est plus sur des problématiques de particuliers. Et puis, je suis en train de commencer une chaîne YouTube. Ben, elle est vraiment anecdotique. Donc, LinkedIn, c'est bien. Et puis, j'ai mon site web aussi, peut-être, qui peut apporter plus de détails sur qui je suis et ce que je fais. Donc, soniaquetan.card, CA2RD.co.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à toi, Christelle.
C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog creative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.